Vous savez que le jeu avance et que vous piétinez, Franck.
Je suis loin devant. Écoutez, les riches, je sais à quoi vous ressemblez. J'ai vu vos yeux.
Oh, ils pourront avoir changé la prochaine fois.
Ce qu'ils expriment ne change pas. Vous pouvez prier que je ne vous retrouve pas, petite ordure.
Prier? Quoi, vous voulez me tuer, Franck?
Exactement.
L'ironie est si dense qu'on s'en étoufferait.
Il n'y a pas la moindre ironie,
putain! Réfléchissez. Le même gouvernement qui m'a appris à tuer vous a appris à sauver des vies. Maintenant, c'est vous qui voulez me tuer alors que moi, sur ce toit, je vous ai sauvé la vie. On va écrire des bouquins sur nous, Franck.
J'en ai marre de vos conneries, Mitch!
Ne soyez pas mauvais joueur, Franck. Hmm? Vous auriez pu m'éliminer, mais vous avez choisi de sauver votre peau. Ne venez pas pleurer maintenant. D'accord? Vous savez, je viens à m'interroger au sujet de Dallas. Avez-vous vraiment fait tout ce que vous pouviez? Ou avez-vous fait un choix là-bas aussi? Vous avez vraiment les couilles pour recevoir une balle, Franck?
Oui, eh bien, je vous promets d'y réfléchir en pissant sur votre tombe.
Tony?
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué.
Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Bonne de Dieu, bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie. Oh.
Vous auriez dû rester à l'écart. Fallait que je le fasse. Ça a fait du bien. J'ai perdu 2 bébés chez les faiseuses d'anges. Pas le choix. J'ai jamais pu me battre pour eux. Toi aussi. Laisse pas tomber. Jamais. Tu les emmerdes, eux et leur clique d'enculés.
C'est un langage assez inattendu venant d'une dame.
On s'en cogne. Et à des fois, c'est exactement le langage qu'il faut.
Ouais.
Quand tu sais que t'as plus rien à perdre.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Avec bien sûr le docteur Moreau, bonjour Antonin.
Salut les kids.
Pour une émission sortie de séance, hein, ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas proposé ce genre d'émission. On vient d'aller voir Au Pâté à Rennes, le dernier film de Clint Eastwood, le dernier en date et puis le dernier point d'interrogation, puisque le monsieur a quand même 94 ans, juré numéro 2, donc avec Nicolas Hoult notamment et Tony Collette et puis d'autres. Là, c'était il y a un quart d'heure, hein. on sort à peine.
Autant dire qu'on va être brillant.
Évidemment, l'émotion qui va avec l'idée d'aller voir tout simplement un film de Clint Eastwood au cinéma. Hein. C'est vrai qu'on a assez peu parlé de Clint Eastwood dans cette émission.
Très peu.
Mais c'est l'occasion justement de revenir pour une fois sur ce cinéaste qui nous touche tant, qui nous plaît tant. Et pour ceux qui sont allergiques à la politique des auteurs, bah, passez votre chemin peut-être. Allez écouter, je ne sais pas, Allo Ciné ou quelque chose d'un peu plus... Voilà. Parce que là... ça y va franchement quand même. Alors d'ores et déjà, moi quand même, je peux le dire, on sort de la séance, outre l'émotion évidemment de voir ce film, et puis je vais expliquer d'ailleurs pourquoi, parce que ça me semble important, on est loin selon moi quand même d'un dernier grand film, d'un Chant du Cygne ou de quelque chose de ce genre. Au contraire, il nous propose un petit objet, en tout cas sur la forme et même le scénario. À la base, j'imagine très bien un petit récit, ça aurait pu sortir par n'importe qui un petit peu, Et évidemment, c'est moi en rapprochant ça du travail précédent d'Eastwood, je pense que je vais être amené à regarder ailleurs. C'est ce qui nous a toujours plu, ce qui moi m'a toujours plu en tout cas dans le cinéma d'Eastwood, c'est comment il nous pousse à voir au-delà de certaines évidences. On va regarder derrière les choses, on va voir ce qui se cache derrière. C'est comme ça que moi j'ai découvert vraiment le cinéma d'Eastwood en repensant, tu vois, sur l'Orgue de Madison ou des choses de ce genre. Voilà, on a une idée de quelque chose, de quelqu'un, on va te pousser à aller voir un peu plus loin, voir ce qu'il y a derrière. Et donc toujours quand je vais voir un film d'Eastwood, j'ai ça en tête quand même. Me dire, tiens, voilà, on nous présente quelque chose, regardons toujours derrière. Et là, il a réussi à me surprendre quand même, parce que je m'attendais, en connaissant un peu le pitch, à savoir un juré pour un crime qui se retrouve confronté à sa propre culpabilité pendant ce procès. Je m'attendais à autre chose, en fait. Je m'attendais pas, en fait, surtout, à me retrouver devant un objet aussi lumétien. Il va citer clairement quand même 12 hommes en colère. Il y a des phrases dites par ce jury dans la salle où ils vont faire
invoquer leur travail. Le doute raisonnable et tout ça.
Voilà, c'est clairement, enfin pour moi, j'avais l'impression que c'était mot quand même, le 12 hommes en colère.
Disons que le dispositif est à peu près identique.
Mais
il s'agit pour un seul de retourner 12 personnes. Quoi.
Voilà, et ça commence comme ça. Mais en fait, il va faire exploser tout ça. Et constamment, il fait tout exploser. C'est vrai qu'au fur et à mesure, je trouvais que le film mettait un peu de temps à démarrer. Ensuite, je trouvais que voilà, justement, ça se reposait peut-être un peu trop pas une forme de classicisme en termes de mise en scène, mais de classicisme en termes ou de citation même de films classiques plutôt. Quoi. Et ça m'inquiétait un petit peu, et paf, il fait exploser ça. Et au fur et à mesure, plus le film avançait, plus j'étais fasciné. Je me dis, mais c'est brillant. Et après, je te laisserai évoquer moi ce qui me reste en sortant de cette séance là et en voyant justement comment Eastwood, au fur et à mesure de son petit film, entre guillemets, me surprend, fait tout exploser et puis ouvre des portes en fait, plutôt que de faire un film en étau ou quoi que ce soit. Non, il fait tout exploser. Et pour moi, là, il y a plein de choses qui se passent à la fin du film. Ma grosse inquiétude, c'est de me dire, mais, et c'est aussi, je pense, la sienne depuis quelques temps déjà, qui y aura après lui, en fait. Il évoque depuis pas mal de temps déjà, en fait, sa descendance ou justement sa non-descendance. Il serait peut-être, je pense qu'il a raison, le gardien d'un certain classicisme, justement, mais pas que. Hein, on aurait tendance, nous aussi, je pense, à le rentrer un peu trop là-dedans. Je pense que c'est pas ça, mais d'une certaine école, en tout cas. Et en effet, après lui, qui y aura en fait? Si Eastwood en effet s'arrête sur ce 40e film à 94 ans, qui arrive après lui pour faire perdurer un petit peu cette école un peu particulière, un croisement justement entre un vrai classicisme, quelque part fordien, qui va aussi convoquer justement tout le cinéma des années 70 et puis tout ce que ça engendre par la suite. Il a réussi quand même vachement à s'adapter aux différentes décennies depuis hein, et à évoquer le monde contemporain malgré tout, même si c'est parfois avec le regard d'un vieux bonhomme, parce qu'en effet c'est un vieux bonhomme, mais sans nostalgie aucune, hein, mais bon, ça reste un vieux bonhomme, donc son regard sur la jeunesse aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, je pense. Mais malgré tout, voilà, il a cette inquiétude légitime et je l'ai vachement partagée en fait, quoi.
Oui, bah écoute, moi je suis assez enthousiaste. Hein. Moi j'avais, c'est vrai que pour dire quelques mots sur le contexte de sortie du film qui est assez particulier quand même. Hein. C'est vrai qu'il a été annoncé il y a 6 semaines de ça, hein, la sortie du film. On avait presque l'impression des fois que ça allait pas sortir, hein, ou qu'on savait qu'il allait avoir un dernier film.
C'est encore une fois produit en effet par Warner,
ouais.
Mais il a été annoncé déjà il y a quelques temps, avant même la sortie du film, avant même le tournage. Le nouveau patron de la Warner ne voulait plus donner carte blanche, grosso modo, à Eastwood. Hein, parce que c'est vrai que ça faisait quand même plusieurs décennies qu'il jouissait de ce statut un peu particulier. Il y a Kubrick, peut-être, qui avait eu ce statut-là. La différence de Eastwood, c'est que lui, ses films coûtaient peu quand même. Il tournait vite, il rentrait toujours dans ses frais, grosso modo, parce que justement, les films coûtaient pas cher. Mais il a été annoncé quand même que non, c'était fini, en fait, ce partenariat avec Eastwood, et que là, c'était le dernier que Warner allait produire comme ça, quoi.
Ouais, bien sûr. Et puis moi,
à part s'il fait une suite à Inspecteur Harry, où ils seront peut-être
d'accord. Oui, c'est ça. Puis bon, après, de toute façon, c'est plus qu'improbable. Hein. Mais moi, j'avais un peu peur aussi. aussi parce que bon voilà, je me disais très bien voilà, le système hollywoodien est dans un état tel que bah oui, j'imagine que peut très bien avoir un taré à sa tête qui se dit pourquoi se faire chier à sortir un film d'Eastwood, ça va pas nous engranger des milliards de dollars, même si on sait très bien que ça, comme tu le disais, ça perd très peu d'argent parce que ça coûte très peu cher, donc il y a pas trop de soucis.
Mais grosso modo, ça sert à rien quoi.
J'avais un petit peu peur aussi quand même parce que c'est vrai que le Cry Macho, son avant-dernier film était quand même bien en deçà de La Mule par exemple, et vraiment et sur un mode, j'ai l'impression, quand même relativement similaire, vraiment un mode on va dire free jazz, hein, pas du tout vraiment une sorte de balade quoi, il y avait un petit peu ce truc là, mais beaucoup moins bien que La Mule, et là je m'étais dit oh là là, le fait de pas du tout entendre parler de Juré numéro 2 ne serait-ce que par des sorties un petit peu événementielles dans des festivals, je pense à Venise ou des trucs comme ça, où d'un coup la Warner pourrait se dire, ou les festivals pourraient être un petit peu tentés, même à Lumière à Lyon, tiens on va le passer comme ça en avant-première, bon est-ce que le film peut-être va être complètement gênant, le film d'un vieux monsieur de 94 ans qui s'est complètement planté et qui ressemble à rien, et bah évidemment force est de constater que quand t'es dans le truc, bah t'es précisément devant ce type de film bah qui manque évidemment cruellement au cinéma américain, qui est vraiment du produit de milieu de gamme, du spectacle assez romanesque avec un récit solide, une mise en scène limpide, et qui fait que bah toi bon, en tout cas en étant un peu nostalgique sans parler de vraiment d'Eastwood, d'un cinéma américain qui pouvait avoir une sorte de gamme de propositions assez vaste avec des gros blockbusters, du cinéma indépendant et un cinéma de milieu de gamme dans lequel il y avait toujours de quoi manger, enfin de voir des trucs là c'est un genre qui a complètement disparu des écrans de cinéma pour se retrouver parfois sur les plateformes, et encore c'est cette sorte d'économie là a un peu disparu quoi, parce que même sur les plateformes au final bon on n'a pas vraiment ça, il n'y a plus de la série B ou du film milieu de gamme, donc quand on est devant le film en fait on se dit bah oui non mais c'est vraiment il y a du métier, c'est vraiment là on voit le truc du cinéma américain vraiment bien, avec dans un genre qui est bourré de facilité dramaturgique, le film de procès, mais qui évidemment a fait ses preuves, qui peut être chiant.
Mais qui n'est pas évident, parce que le film de procès a été suffisamment justement traité pour qu'aujourd'hui tu dises c'est bon.
Mais oui. Et c'est vrai que, après, je te rejoins aussi, dans la première émission sur Eastwood qu'on a fait il y a très très longtemps, c'est vrai, on avait essayé d'essayer de repérer un petit peu des lignes de force qui couraient dans toute sa filmographie. Il y avait vraiment ce truc-là qui était très 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 fort, ce que tu as dit un petit peu sur voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences, quoi. Et c'est vrai que qu'on prenne Impitoyable sur qu'est-ce qu'il y a derrière le récit légendaire de l'Ouest, ou sur l'heure de Madison, qu'est-ce qu'il y a derrière pour les enfants qui découvrent qu'est-ce qui se cachait derrière l'image de mère de famille qu'ils avaient de leur mère qui vient de décéder.
Et puis il a continué dernièrement avec sa trilogie des héros, enfin complètement. Le dernier film, c'est qu'il a fait sur les héros américains.
Le film avec Tom Hanks qui est superbe, Sully. Et puis La mémoire de nos pères, c'était aussi ça, Flag of Horse Vazer.
Il y a une photo,
qu'est-ce qui se cache derrière cette photo,
quoi,
quelle est la mise en scène, quelle est l'histoire qui se cache derrière ça. Ce qui fait que en fait, Clint Eastwood, c'est vrai que tu l'as bien dit, hein, c'est que c'est quelqu'un qui perpétue quelque part une sorte de grande histoire américaine plutôt iconique et plutôt dans quelque chose de séduisant, d'affirmatif, j'ai envie de dire, sur quelque chose de très
fordien, c'est-à-dire qu'il croit en son pays, les États-Unis, c'est un patriote.
Ça fait vraiment plaisir aussi j'y reviendrai, mais voilà, il y a ce truc-là, c'est très affirmatif, mais c'est en même temps très très critique, quoi. Et c'est les deux en même temps, et ce qui fait que c'est aussi fordien, parce que Ford, c'est aussi celui qui a fait L'homme qui tue à Liberty Valance, qui est un petit peu un peu la pierre de rosette de tout ce cinéma-là, qui veut questionner ce qui se cache derrière les images, ou en tout cas derrière un récit mythique et tout. Et c'est vrai que Eastwood, c'est vraiment l'héritier de ça. Et on est devant un film qui interroge d'une façon un peu plus torve. Et tu l'as dit, ouais, peut-être lumétienne, mais cette notion-là, quoi. Et je pense que si ça doit être son dernier plan de sa filmographie, le dernier champ contre champ final de Juré numéro 2, tu te dis, oui, c'est pas mal. Parce que moi, je me disais, tiens, c'est étonnant, quoi. Voilà, on va spoiler, hein, évidemment, si vous n'avez pas vu le film, il ne faut pas écouter cette émission-là. Mais moi, je me disais, bon, d'accord, il va acter une fin un petit peu à la Mystic River ou Sean Penn qui se rencontre à la fin de Mystic River. Il a tué le mauvais coupable. Il a tué Tim Robbins, mal indiqué, si je me rappelle bien, par certains. innocent. Enfin, en tout cas, il a pensé que c'était lui le coupable. Et sa femme le convainc que on est des princes, il faut que notre récit continue. Cette vérité-là que tu as, tu vas la garder et on va continuer à vivre comme des rois. On passera l'extrait en fin d'émission de cette scène finale qui est très shakespearienne, un petit peu.
Mais le spectateur, connaît l'histoire aussi.
Le spectateur le sait. C'est... Le personnage de Sean Penn n'est pas spécifiquement très, très positivement représenté dans le film. Bon, effectivement, le film termine sur cette note très amère en disant bah voilà. Alors que, ouais, quand je voyais le jury numéro 2, on est vraiment, on suit, on colle au basque Nicolas Hoult. On n'a pas vraiment envie qu'il lui arrive quelque chose quand même d'horrible.
C'est terrible.
Quoi.
Il arrive bien à jongler quand même avec ce personnage qui n'était pas facile. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, il fait en sorte, je te laisserai évidemment, il fait en sorte de nous attacher à ce personnage de Nicolas Hoult via son histoire terrible, alcoolique, perte d'enfant, et puis et bonne conscience, et puis un type qui cherche à bien faire, mais qui est malgré tout responsable en fait de la mort d'une femme, a priori en tout cas, hein, parce que c'est jamais... complètement vérifié non plus, mais a priori quand même c'est lui qui est responsable et qui va envoyer ou qui voilà qui essaye de ne pas envoyer justement en prison un type qui est en procès alors que c'est lui qui est responsable. Voilà, il se bat, mais n'empêche que à aucun moment il va dire oui c'est moi le coupable, ne l'envoyez pas en prison. C'est un truc qu'on avait déjà vu dans d'autres films de Eastwood, hein. On passait d'extrait dans la ligne de mire tout à l'heure. Il y a ce genre de conflit, celui-là est poussé un petit peu à l'extrême. Mais voilà, il fait en sorte qu'on s'attache à ce personnage. Moi, quand même, au fur et à mesure du film, justement, je dis, bah oui, mais ce personnage-là, il faut qu'il... Voilà, c'est ça... Il faut qu'il dise les choses. Enfin, voilà, il faut être honnête. Et évidemment, on est balancé. Il joue bien là-dessus. Il
joue bien là-dessus. Puis c'est vrai que la fin, la pirouette, le contre-champ final est parfait. Quoi, parce qu'en fait, c'est du coup, ça, on assiste à plutôt au chemin, à l'autre arc qui va se passer dans tout le film, outre voilà, l'arc dramatique principal et la résolution du procès, mais l'arc narratif du personnage, le sien. Mais il y a aussi ce personnage de Toni Collette, qui est évidemment plus une actrice
procureur général
extraordinaire.
Qui, elle...
C'est toujours un plaisir de la voir, on la voit trop peu, elle est vraiment superbe. Et c'est vrai que elle est vraiment plutôt typiquement dans un récit dans un récit un peu tout trouvé où voilà, elle se présente, elle s'est transformée elle-même en image quelque part pour devenir se présenter en tant que procureur général, me semble-t-il, en oui, tout cas de la ville de je sais plus quelle ville, et en fait en tout cas elle est dans cette sorte de posture de représentation d'image et tout ça de représentante des institutions américaines, mais voilà, elle se sert de ça pour se faire élire, mais au bout d'un moment sous un peu les coups de but de l'avocat de la défense un peu alcoolique et tout, mais qui lui n'a pas les moyens en tout cas de logistique
mais
il
a l'intelligence,
il lui dit
contre...
attention, toi tu as fait ta carrière sur ce combat pour la vérité, là il y a un truc qui va se passer, voilà, et c'est vrai qu'elle-même se suicide à la fin, enfin quelque part professionnellement probablement, parce qu'elle va dédire le procès qu'il a non pas fait élire, mais en tout cas qui a sur lequel elle a tout misé, une phase clé de son élection. Donc, du coup, c'est avec une sorte de vérité qui va triompher, enfin, qu'on devine qui va
mais
triompher.
Ça, voilà, il laisse le doute, hein, il soude à la fin. Je te coupe encore, parce que vu qu'on sort de la séance, j'ai pas le temps de. Donc, faut que je dise des choses quand même quand elle me passe. J'ai pensé. On parlera tout à l'heure du documentaire, peut-être si on a le temps, sur John Williams qui est sorti sur Disney+. Il y a un documentaire sur Ennio Morricone qui est sorti il y a quelques temps. Il revenait beaucoup sur la façon dont il pouvait composer un morceau en contrepoint. C'est-à-dire qu'il y a deux mélodies qui vont se chevaucher. Quoi. Et en fait, il a composé un peu tous ses morceaux comme ça. On sait aussi qu'Ennio Morricone, évidemment, le lien avec Clint Eastwood est étroit. Et c'est vrai qu'en voyant cette écriture-là, ce montage et cette façon de faire, moi j'ai pensé beaucoup à ça justement. Pensais trop au documentaire musique et tout ça, mais voilà cette histoire en contrepoint, c'est-à-dire qu'en effet cette histoire principale avec le personnage de Nicolas Hoult et puis à côté justement, et c'est là aussi où justement ça complexifie tout et ça enrichit énormément en fait une histoire qu'aurait pu être digne d'un, pas d'un téléfilm, enfin si, ça aurait pu être un
carrément.
Téléfilm complètement, et voilà, et là d'un coup tout se complexifie au fur et à mesure et enrichit énormément en fait un point de départ qui est quand même un peu simpliste entre guillemets quoi. Et en fait ça m'a réjoui de voir qu'en effet il va garder cette forme simple et être capable de terminer justement, moi ce dernier champ contre champ, ce plan final de Eastwood, si jamais ça devait être son dernier sa dernière scène entre guillemets, elle est suffisamment riche, justement, pour que je sois satisfait, même si ça sera pas mon préféré, mon film préféré de Eastwood ou quoi que ce soit. Je dis, bah oui, mais il est parvenu, justement, à montrer, il est parvenu à une forme de richesse dans la simplicité aussi, quelque part. Mais il est parvenu à une forme de richesse qui, moi, me satisfait complètement. Et là, on pourrait déblatérer, je pense, sur l'histoire même, sur ce qui va se passer après pendant longtemps.
Oui, bien sûr. Je pense qu'après, voilà, c'est aussi ça qui fait l'amour qu'on peut avoir sur Eastwood, hein, c'est qu'il y a des fois ce truc où bah, y a un regard, quoi. Et c'est que des fois, bah, les scénarios, c'est des scénarios où on sait très bien que voilà, ces scénarios-là, entre les mains de n'importe qui, bah, des scénarios suffisamment efficaces pour que le film soit pas mal. Mais des fois, bah, Eastwood, il va quand même te transfigurer ça par des fois des questions.
C'est pas Rennie Harlin qui aurait pu faire ça.
Bah, bien sûr, et puis il s'en serait tenu au pitch, hein, parce que c'est vrai que le pitch, il est suffisamment accrocheur du jury numéro 2, il n'y a aucun souci, quoi. C'est vraiment un truc qu'on a jamais vu, voilà, qui est audacieux, qui est improbable, rocambolesque.
Oui, mais là, il va faire tenir.
Voilà,
hein,
et qu'il fait tenir sans problème. Et puis, voilà. Mais ceci
parce dit, que l'intérêt est sans doute ailleurs, justement. C'est pas
la richesse qu'il arrive à donner à tous les personnages. Moi, c'est pour ça qu'on disait lors de précédentes émissions qu'on avait consacrées à Clint Eastwood, c'est que tu dis, mais en fait, qui c'est qui filme, par exemple, très bien l'Amérique ou le peuple américain? Bah oui, Eastwood, il le filme très bien. Il y a des moments où tu dis, quand ils sont avec tous les personnages, il y a un effet échantillon qui est accentué avec le fait échantillon social de la composition d'un jury et tout ça, mais en fait tous les personnages sont là, pour moi ils existent, certains vont moins que d'autres, certains vont être vraiment, je pense à la petite bimbo qui est dans le coin, elle a peut-être pas le droit vraiment à une existence, à un surplus d'âme, mais je pense qu'à ce personnage de, je sais plus comment il s'appelle,
mais
le personnage de l'afro-américain qui va en 2-3 répliques ou un regard compatissant, un regard de colère, une sorte de, en tout cas de d'ambivalence qu'on pourra avoir avec lui, de paradoxe qu'on pourra avoir par rapport à sa position, mais un personnage qui existe dans toute sa complexité. Et ce qui fait que en fait et je pense que tu as ce truc là chez lui aussi, c'est ces gens là pareil pour le celui qui est présumé coupable, enfin en tout cas qui va être désigné coupable par le jury, c'est un white trash, c'est vraiment les mecs, c'est un bar un peu white trash aussi, pareil, c'est des beaufs,
c'est un ancien dealer,
délinquant, et
à partir du moment où il avait un casier, paf, il était désigné
il y a quand même ce truc quand même. Et puis de voir que le type à un moment, il aime la nana.
Il y a le jeu des doubles, c'est vrai que cet accusé, le white trash dont tu parles, qui avait une carrière de dealer sans doute avant lui, mais qui a changé, il dit justement qu'il a changé dans une seconde chance. Et ce jury, Nicolas Hoult, lui aussi justement, a eu cette. Donc lui, c'était pas un dealer, c'était un alcoolique. Il dit qu'il a changé justement, qu'il a arrêté de boire. Voilà. Chacun se reflète envers l'autre. Enfin, il y a un jeu de double constant. Tous les personnages ont un double dans le film
le film est vraiment construit comme ça, c'est très vrai, entre le double,
il y a quelque chose d'Hitchcockien justement aussi dans le faux coupable, dans le machin,
tu vas avoir une chose comme ça. Et puis c'est vrai que ce truc de la deuxième chance, alors déjà ça prend des résonances très très fortes aux États-Unis, on a quand même ce truc là très très fort où presque le monde là-bas se divise en deux catégories, ceux qui pensent qu'ils ont une deuxième chance ou ceux qui pensent que t'en as pas, et donc ça veut dire tu es un individu comme ça, tu nais tel quel dans la société, puis tu ne bouges pas ou tu peux te réinventer, quoi. Et c'est vrai que entre les deux personnages, il y a quelque chose de très fascinant qui se joue et qui de toute façon en plus se rencontre vraiment le thème de Clint Eastwood, qui est si Nicolas Hoult clairement se désignait comme coupable par son passé, son passé d'alcoolique,
le personnage de
Kiefer Sutherland, qui est un avocat, qui est le chef des alcooliques anonymes, par son passé, par l'histoire qu'il trimballe avec lui, qu'il a su réinventer, mais à ses propres yeux, aux yeux de son entourage, mais sûrement pas aux yeux d'un jury, il serait de toute façon condamné, parce que personne ne croirait au grand jamais qu'il a conduit alors qu'il était à jeun, c'est pas possible, quoi. Donc il y a quand même, ça résonne là-dessus, c'est hyper intéressant.
Je pense encore à autre chose, je suis désolé pour les auditeurs, je suis en mode, on sort de la séance, donc je prends au fur et à mesure. Il y a un moment, j'évoquais Sidney Lumet tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a fait penser à la fois à Lumet et à Ford dans le film, c'était dans la dernière partie du film. Donc c'est le moment où le personnage de Toni Collette va se rendre compte justement que le personnage de Nicholas Hoult a quelque chose à faire dans cette histoire, parce qu'il vient voir la fin du procès, et ils ont une petite rencontre sur un banc. Et voilà, il lui fait comprendre qu'elle sait, qu'il est responsable, tout ça, machin, quoi. Et donc, il y a ce problème de la culpabilité qui est mis en avant, vraiment, quoi. La culpabilité qui le ronge, lui, dès qu'il s'est rendu compte. Donc, début du film, il se rend compte qu'il est responsable. Donc, lui, la culpabilité le ronge, bon, normal, trajet du personnage, machin. Et là, ça va se croiser, en fait, sur la séquence finale, non seulement ces deux personnages-là, mais d'autres autour, où la culpabilité va être collective. Et en fait, je trouvais ça brillant, parce que c'est amené justement de façon assez progressive, et puis d'un coup, ça nourrit un peu tout la fin du film, la culpabilité collective. Et donc, c'était à la fois complètement, évidemment, fordien, c'est-à-dire que la face négative de Ford, presque, c'est-à-dire que comment des gens vont se retrouver et puis devoir porter, grosso modo, justement, le poids de quelque chose, d'une action, mais ensemble, parce que l'un comme l'autre, évidemment, pour avancer, doivent laisser passer ce qui est arrivé au procès, à savoir que l'accusé, qui était innocent, déclaré coupable, ça les arrange tous les deux. Mais ils devraient avancer justement avec cette culpabilité malgré tout, de savoir eux que bah non, le type il a rien fait, quoi. Et ça se développe, tu sens que les personnages qui les entourent sont au courant aussi, ils doivent vivre aussi avec ça. Chacun vit avec ce sentiment-là différemment, mais voilà, si on va avancer, eh ben on va tous devoir porter en conscience ce mensonge et cette culpabilité, parce que c'est pas des méchants, c'est pas des cyniques. Il y a pas de cynique dans le film, en fait, c'est ça aussi qui est un peu particulier et qui change peut-être un peu. Dans les années 90, on n'aurait pas fait un objet forcément comme ça, il y aurait eu un méchant cynique qui savait, qui manipulait. Là, on n'a pas affaire à des personnages comme ça, au contraire, en fait. Et c'est ce qui rend la chose, et c'est un truc très Eastwoodien, je pense. C'est justement, il s'attarde vraiment aux personnages avec des petits trucs, c'est vraiment des petits trucs, mais ce qui fait que voilà, cette absence de cynisme, elle joue vachement, et c'est un truc qui est, pour moi, que je retrouve dans le cinéma de John Ford. Il y a très peu de méchants cyniques chez John Ford, même dans Le Massacre de Fort Apache ou des choses comme ça, parce que là, moi, ça me faisait quand même beaucoup penser à ça. Si on veut avancer, faut qu'on, voilà, ouais, faut qu'on se ouais, serre ouais. les coudes, grosso modo.
Et ce qui rejoint vachement Lumette, quoi.
Aussi. Ce qui rejoint aussi vachement Lumette, quand même. Sauf que dans Lumette, on pouvait retrouver des personnages plus, alors peut-être pas cyniques, mais en tout cas plus mauvais, que ce soit dans Serpico, par exemple, ou dans Le Prince de New York. Et des gens, ils savent qu'ils font quelque chose de mal, et ils continueront malgré tout, même s'ils ont leur raison. Hein, on donne toujours leur raison au personnage, le truc renoirien, ça balaie toute cette cinématographie-là. Mais par contre, dans ce film-là, voilà, il y a cette chose qui arrive, et encore une fois cette dernière scène, ce dernier face à face, du coup, est encore plus lourd de conjectures. C'est à dire que moi je suis vraiment pas sûr à la fin de ce qui va se passer, à cause justement de tout ce poids de communautariste, en fait.
Ça se pourrait, c'est ce qui permet complètement d'aller sur un terrain plus politique, sur le truc, le politique de Eastwood, où on sait très bien que voilà, lui c'est un libertarien, Eastwood, donc les institutions judiciaires, pour lui, c'est une présence de l'État dans la vie de des individus, et
ce qui est important, c'est ce que l'individu va faire, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que lui, pour lui, peut-être que on peut aussi interroger ce truc-là. Effectivement, moi, c'est pour ça que je trouve que le dernier plan est magique, parce qu'effectivement, on peut très bien se dire, bon bah, ils vont reconfronter, il va y avoir un nouveau procès, mais ça peut être juste une confrontation d'individu en individu, en disant, non, on peut pas, tu peux pas vivre avec ça. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir, parce que, et c'est presque une scène de duel quelque part, quoi. Ça va se jouer dans la rue centrale quelque part, peut-être pas au tribunal. Et c'est vrai que le film, on le sent très, enfin, il est très guidé par cette idée-là. Les personnages de l'avocat de la défense ou de l'accusation en discutent, et tout ça, théorisent leur travail, le disent plusieurs fois. C'est pas un système parfait, mais c'est le meilleur qu'on ait. On est vraiment, est-ce que tu penses que la justice est la vérité au travail, voilà. Ils sont vraiment dans une posture assez, on va dire, théorique par rapport à leur boulot. Donc tu vois que c'est des gens intelligents, ou en tout cas qui se questionnent sur un petit peu sur le truc. Je pense que Eastwood, dans la façon dont il a de le présenter aussi, bah, d'un côté, il va dire voilà, il va montrer aussi beaucoup les imperfections du truc, le fait que voilà, la défense, elle a pas les moyens de l'enquête, c'est un avocat commis d'office, et t'as trucs comme ça qui quand même font te dire que voilà, avec Clint Eastwood, il pense que la vérité ne se niche pas dans l'endroit du tribunal, quoi. La vérité peut-être se niche autre part, peut-être dans ce contre-champ final entre les individus, mais ça sera pas là-dedans que ça va se nicher, quoi.
Par rapport à ce que tu dis, puis on passera peut-être, mais en effet, il y a beaucoup de le film majoritairement est dans des espaces clos, soit chez Nicolas Hoult, soit chez ce juré, soit dans le tribunal, soit dans la salle justement où ils vont délibérer. Il y a quand même deux autres formes d'images qui vont constamment confronter. Il y a les flashbacks. On voit les souvenirs. Alors, de plusieurs manières, hein, parce que pendant le procès, on va voir des images qui ont été filmées par des témoins, par la victime elle-même, qui est interprétée quand même par la fille de Clint Eastwood. C'est-à-dire que cette jeune femme qui se fait tuer sur le bord de la route, c'est quand même la fille même de Clint Eastwood, l'actrice, hein, je veux dire, pas pour de vrai. Et puis ensuite, du coup, il va y avoir ces souvenirs justement de ce juré numéro 2 qui reviennent. Et un moment où les jurés vont devoir retourner sur les lieux du crime, en fait. Et c'est terrible parce que tu t'attends, en fait, à ce qu'il y ait une révélation pour l'un d'entre eux, justement, de dire tiens. Et donc, ils vont tous chercher, voilà, un petit peu, soit dans le bar, soit sur le pont où elle est morte, des indices, hein, une révélation. Il n'y a aucune révélation. Il y a une confrontation entre deux jurés, entre juré numéro 2 et puis un autre juré qui lui dit
je
te sens pas, grosso modo, quoi. Mais qui va renvoyer encore à un flashback. Mais je me suis posé la question de la part de Eastwood, justement. Voilà, on change justement de perspective. On va essayer de voir ailleurs encore. Encore une fois, dans cette idée qu'avec Eastwood, faut qu'on regarde derrière, faut qu'on regarde ailleurs, faut qu'on voit ce qu'il y a de caché quelque part. Et là, c'est un échec pour la majorité, en tout cas des gens. Ça ouvre une perspective nouvelle. En tout cas, semble-t-il, pour ce juré. Mais il y a quelque chose qui coinçait pour moi. C'est comme si, justement, il abandonnait un petit peu ce qu'il avait pu présenter avant. Je me suis vraiment posé la question.
C'est un drôle de truc, parce que même en termes de vraisemblance, tu te demandes comment ça peut être accepté par la juge, que le jury se dise à quoi ça peut mener.
Là, clairement, ça ne sert à rien, mis à part que juste après, comme par magie, paf, ouais. tout le juré, alors qu'il s'était bloqué à 6 non coupables, 6 coupables, après ce truc-là, paf, tout le monde dit coupable, en fait. Et sans qu'on ait eu affaire.
Bien sûr, il y a soit quelque chose.
Il y a un blanc.
En termes de pure vraisemblance, c'est une scène qui ne marche pas. Mais après, c'est pas grave. Après, c'est vrai que moi aussi, je trouve que la scène de confrontation entre les deux jurés est très forte, intéressante et tout ça. Elle aurait pu avoir lieu ailleurs, on peut se dire. Donc, il y a un truc qui m'échappe, en tout cas, dans cette scène-là, où je me dis, mais à quoi elle sert, quoi. Enfin, comment tu la justifies? En même temps, moi, j'étais pas été plus gêné que ça, on va dire, dans mon rapport de spectateur.
Ah non, pas du tout. Mais c'est juste que par contre, après coup, tu te dis, mais juste après cette séquence-là, il y a plus de séance de délibération et ils annoncent tous que le bonhomme est coupable.
Oui. Mais t'as quand même ce truc un peu méta, enfin c'est pas méta.
Non, c'est pas méta, mais
c'est... en fait t'as ce truc, enfin qui est vraiment. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est très dans l'air du temps, hein, ce truc-là entre les. On en a eu pas mal, hein, je pense, de films sur cette notion, enfin sur des films de procès avec cette notion de l'histoire. Qu'est-ce que c'est un procès? C'est celui qui raconte la meilleure histoire. Donc ça veut pas dire du coup c'est on va essayer de faire émerger de la vérité. C'est celui qui raconte la meilleure histoire. Bah il y a évidemment Anatomie d'une chute, et il y a pu avoir aussi le film sur le procès de Cédric Kahn de Goldman. Il y a eu d'autres films qui m'échappent là à l'instant, mais en fait on sent que c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps, de questionner cette notion de la vérité. Évidemment, on se doute pourquoi
la salle de procès c'est parfait,
mais évidemment, et tu dis voilà, c'est ce truc ne pouvait être intéressé un peu Eastwood, quoi, de toute façon, sur cette notion de confrontation. C'est quoi la meilleure histoire? Est-ce que l'histoire
Lui, il cherche la vérité, il cherche c'est quoi la non pas la meilleure histoire, j'ai l'impression, mais qui est le plus sincère, le plus nous fait le plus croire à ce
bien
mystère.
Bien sûr. C'est-à-dire
que tu vois, le personnage de Nicolette qui va voir, elle sort de la salle pour aller voir l'accusé en prison. Elle veut le voir, elle veut qu'il lui parle dans les yeux. C'est bon, il n'y a plus de juré, il n'y a plus de président, il n'y a plus de caméra. Dis-moi dans les yeux que tu l'as
je
pas fait.
Je pense que c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouverait jamais chez Lumet, par exemple. Ça, c'est intéressant. Moi, l'un des derniers que j'ai revu de Lumet, c'est celui avec Andy Garcia, que je confonds toujours
dans l'ombre de
Manhattan. Dans l'ombre de Manhattan, que je confonds toujours avec les derniers jours à Denver. À l'ombre de Manhattan qui se termine justement qui est vraiment le petit Lumet pour les nuls, qui est un super film,
c'est génial,
mais c'est génial, c'est génial, mais en fait ça dit tellement clairement ce que c'est Lumet, c'est-à-dire des fois un mensonge est plus juste que la vérité, on est dans une zone de gris totale, et que c'est carrément l'arc narratif d'Andy Garcia là-dedans, c'est vraiment ça quoi, ça
commence
dans une école.
Il faut écouter le commentaire audio aussi,
et en fait. Et tu dis, mais je pense que Eastwood jamais ne se satisferait de la fin de À l'ombre de Manhattan avec Andy Garcia qui dit non, là j'ai accepté un micro-mensonge, j'ai accepté ce mensonge-là, c'est pas possible. Pour faire perdurer l'institution et la croyance dans les institutions, et aussi dans une sorte de quelque chose qui serait plus proche, non pas de la justice, mais de l'équité, on va dire, quoi. Il y a un truc que Eastwood n'est pas là-dedans. Pas du tout, quoi, et qui eux va plus se résoudre dans un truc très d'individu à individu. Même en ce moment, il y a tous les wise men qui sont en salle et tout ça. Je revoyais pareil le Juvenile Court qui se passe dans un tribunal d'enfants et qui est un petit peu aussi là comme ça sur des arrangements, des petits arrangements de ce juge absolument génial, et qu'on sent que il joue avec les petites ficelles du truc pour essayer d'arriver à la situation la moins pire possible, quoi, quelque part, et au prix de petits mensonges. Et ça, c'est une vision qui est très plus lumétienne que Eastwoodienne, complètement.
Oui, mais je suis pas sûr qu'il soit constamment dans la confrontation ou dans le. Comme tu le présentes, ça pourrait presque être binaire chez Eastwood. Il est moi ce qui ressort, et surtout à la sortie de Gir numéro 2, c'est qu'il est profondément surtout sur l'humain. Alors il y a un côté essayer de faire le moins pire possible, d'être droit dans ses bottes, et le côté fordien justement que Lumet peut retrouver aussi, je pense encore au massacre de Fort Apache, à savoir on sait que pour faire fonctionner encore la société, et puis après on s'arrange entre humains pour régler nos problèmes, mais il faut que la société puisse fonctionner, même si on est libertarien. Parce que Eastwood est évidemment là-dedans, et c'est l'homme et son corps défendant qui est prioritaire, grosso modo, mais il faut malgré tout que la société fonctionne. C'est pour ça qu'on va accepter, par exemple, le fonctionnement d'un tribunal, même si on sait que ça ne fonctionne pas pour de vrai, c'est-à-dire que c'est un innocent qui va être condamné, des choses comme ça, et on le sait, on doit un moment... Mais, encore une fois, il y a ce plan final où moi je me pose la question, justement, est-ce qu'il est d'accord finalement avec ça ? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout foutre en l'air ?
Il y a une vraie ambiguïté, mais je pense que oui, en tout cas, il y a une distinction à faire entre ce rapport aux institutions, entre des mecs comme Lumet ou Wiseman.
Lumet, il n'y croit pas. Enfin, les institutions, il passe son temps comme Ford à montrer tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est le truc de Liberty Valance. La légende, on imprime la légende. Sauf qu'on est conscient, justement. Il a passé 2 heures à nous montrer que. Cette légende, elle est fausse en fait. Alors c'est bien d'y croire, super, sauf que vous regardez ce que je vous ai montré pendant 2 heures, ce que c'était la réalité. Faut être conscient de ça. Par contre, il faut pouvoir avancer, il faut qu'on puisse fonctionner ensemble, quoi. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause?
On peut carrément faire une petite pause.
Une petite pause, alors rapide, mais il y a un petit documentaire quand même qui est sorti sur Disney+ cette semaine. C'est un peu brutal comme changement, mais il y a un léger lien sur John Williams. Je l'attendais depuis longtemps quand même, ce documentaire. On va en parler juste après. Produit par Spielberg, sorti chez Disney+. Donc vraiment, John Williams, et on retrace sa carrière. Et c'est l'occasion de diffuser un thème que moi j'aime beaucoup, que John Williams a composé pour Clint Eastwood, pour La Sanction. Qui n'est pas le meilleur film de Clint Eastwood, qui suite à sa diffusion à la télévision l'année dernière a suscité quelques de spectateurs qui se sont rendus compte que il y a des propos homophobes, qu'il y a des propos misogynes, qu'il y a des propos... Et la nécrophilie n'a pas trop été relevée, alors qu'il y a aussi quelques propos nécrophiles quand même. C'est surprenant. N'empêche que le thème de John Williams est merveilleux. Son fils à Clint Eastwood, d'ailleurs, l'a repris en concert quand j'étais le voir l'année dernière. C'était super chouette. On écoute ça et on se retrouve après pour évoquer ce documentaire.
Un vrai bordel.
C'est grave. Je viens pour voir Durwood Anspringer. Bob Wills dit que vous savez peut-être où je peux le trouver.
Vous êtes un ami de Bob?
Oui. Dites, tant qu'on est là, mon fils qui est ici a 16 ans et jusqu'à présent, il n'a jamais été avec une femme et ça m'embête un peu. Vous croyez qu'on pourrait remédier à ce problème avant qu'il ait plein de boutons?
On ne reçoit aucun gosse ici, cowboy. On a assez d'emmerdes comme ça avec les flics.
Je suis son père et j'en prends la responsabilité.
Aucune fille ne voudra s'occuper de lui. Et qui sait que les flics foutront au ballon s'il débarque ici? C'est pas vous ni votre garçon, mais la fille qui sera avec lui et moi avec par-dessus le marché. C'est pour ça que pas une fille ira avec lui.
Vous êtes tellement belle.
C'est une tristesse qu'un père puisse pas payer une femme à son gamin.
It's the Cannonball Adderley Group, and they're making it happen out at the Monterey Jazz Festival, along with Duke Ellington, Woody Herman, Joe Williams, and many others. Still got tickets for Sunday night, so get on out there, because that's where it's happening. Now we're going to hear from the Gator Creek organization, and feeling fine.
Caramel, Dave Garver. Hello?
Play Misty for me.
Vous avez pu entendre à l'instant un extrait de Play Misty for Me de Clint Eastwood, son premier long métrage. Ce thème merveilleux de la sanction, The Eager Sanction, réalisé par Clint Eastwood, composé par John Williams. Juste avant, j'ai déjà oublié ce que c'était l'extrait qu'on a pu entendre.
Moi aussi, j'ai oublié.
Ah bah merci Anton. Mmh. Ces rapports à ce documentaire, on a un peu de temps pour en causer quand même, qui sort sur Disney Plus en ce moment. Musique par John Williams, de ce français qui est professionnalisé dans les making-of, ouais, et puis les documentaires
qui est très très connu des consommateurs, voilà, de DVD évidemment, voilà. Laurent Bouzereau.
Merci, voilà, je cherchais son nom, je m'excuse. Un documentaire, alors je suis pas convaincu par tout, mais je l'attendais avec impatience. C'est produit par Spielberg. J'avais, quand le documentaire a été annoncé il y a un an ou deux, l'espoir que Spielberg lui-même en fait fasse le documentaire sur Williams, rapport à leur le travail qu'ils ont fait ensemble. C'est-à-dire que, à ma connaissance, depuis Sugarland Express, Spielberg, est-ce qu'il a travaillé avec un autre
Ouais, sur Ready Player One.
Sur Ready Player One. Et puis il y a West Side Story, en effet, où c'était un peu particulier. Mais bon, ils ont quand même voilà, une relation assez particulière. Et c'est vrai que c'est le point fort, quand même, de ce documentaire, qui laisse quand même entrevoir aussi tout ce que Williams a pu faire. À côté, à ce sujet, moi j'invite tout le monde à aller écouter, ou ce que j'allais pas dire, acheter le coffret, il coûte quand même beaucoup trop cher. Un gros coffret qui était sorti de CD, de 20 CD, qui retrace un peu la carrière de John Williams, évidemment avec beaucoup de Spielberg dedans, mais pas que, et tout ce qu'il a pu faire avant, à côté, parce qu'il a pas fait que pour le cinéma, il a fait des choses aussi déjà hors cinéma,
pour
hors
les Jeux
télé.
Olympiques.
Alors il a fait pour les Jeux Olympiques, il a fait pour la télévision, et puis il a fait des concertos, tout simplement en fait des concertos. Alors on peut trouver les CD, notamment par Yo-Yo Ma, le violoncelliste qu'on voit dans le documentaire. Surtout, ce qui est évidemment le plus important à dire, et c'est ce qu'on évoquait pendant qu'on écoutait ce thème de la sanction, c'est que John Williams, c'est peut-être même plus que Morricone, quelqu'un qui a touché des générations, plusieurs générations en fait, depuis 50 ans, de façon très très importante en fait. C'est-à-dire que c'est des musiques qui ont marqué en fait plusieurs générations, qui resteront extrêmement marquantes.
Et je te coupe parce qu'il y a un petit moment qui est très rigolo là-dessus, une image de Making of, me semble-t-il, de la musique de E.T. où t'as Williams et Spielberg qui écoutent E.T. avec la musique. Et puis là, dans E.T., il y a cette fameuse petite référence à la phrase musicale du thème de Yoda, quand Yoda apparaît dans E.T. Voilà, un personnage déguisé, il dit bon bah là on a gagné 1 million de spectateurs, tu veux dire 200 millions voilà.
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, et c'est impressionnant, c'est touchant, extrêmement touchant en fait. Et j'étais ravi qu'il y ait enfin un objet filmique, un documentaire qui laisse la parole un minimum à John Williams, à Spielberg, qui parle très bien de lui, qui parle très bien de leur collaboration. C'est quand même vraiment super de voir Williams évoquer, même si c'est de façon succincte, la façon qu'il peut avoir de composer, comment est-ce qu'il entrevoit la composition de certains morceaux, le passage notamment sur la composition des cinq notes de Rencontre du troisième type est exceptionnel. C'est vraiment précieux pour moi en fait de voir quelqu'un évoquer la musique comme ça. Pourquoi est-ce que je vais mettre ces cinq notes là plutôt que cinq autres notes,
ou dans quel ordre je les mets, quoi.
Dans quel ordre
notes,
je les mets,
dans quel ordre je les mets.
C'est précieux d'entendre ce genre de choses. Ça m'a vraiment touché à certains moments comme ça, et ça permet d'entrevoir justement l'importance qu'il peut avoir. Et c'est terrible en fait. C'est vrai qu'on a dû penser la même chose en voyant le documentaire, en se disant comme Eastwood par exemple, on évoquait, c'est un vieux monsieur, c'est un très vieux monsieur, John Williams, et il a toute sa tête, c'est génial de l'entendre parler maintenant. On aurait aimé l'entendre parler plus lui plutôt que le chanteur de Coldplay. Moi ça sera la... Enfin, tu vois, ça me gâche le documentaire de voir ce tâcheron en fait de Coldplay dans un documentaire sur John Williams. C'est-à-dire qu'on a affaire à un génie de la musique, un génie, parce que John Williams, je le considère vraiment comme un génie, où il est capable d'élaborer des thèmes et des mélodies qui sont à la fois extraordinaires et qui paraissent évidentes. Et puis à côté de ça, on a justement l'antithèse pour moi, à savoir Coldplay, qui fait de la soupe pure
et
dure.
C'est navrant. Ouais. Enfin, c'est même le bas. Bon, après, c'est vraiment les limites de ce type de documentaire, et c'est un peu dommage que ça sombre là-dedans. Il y avait eu le même cas pour le Caro Ennio, ça s'appelait comme ça, ou Ennio Morricone.
Ennio, tout simplement.
Ennio, tout simplement. Ou voilà.
C'était Metallica.
Mais c'était Metallica, qui est déjà beaucoup plus honorable. Mais même, tu disais, aligner les différents admirateurs d'un artiste pour qu'ils viennent de juste faire de la surenchère d'adjectifs pour dire voilà, c'est génial, c'est super. Tu dis, mais putain, vous l'avez là, laissez-le parler, quoi, c'est bon, quoi.
Et là, il y a les rencontres avec Spielberg qui sont merveilleuses, fait. Laissez-les parler ensemble.
C'est là où...
aussi que Spielberg l'a filmé pendant, parce que Spielberg était présent à quasiment toutes en fait les enregistrements justement des musiques de ces films. C'est-à-dire que le montage terminait, paf, il y avait l'enregistrement de la musique pendant une semaine ou deux. Et Spielberg était là et filmait, en fait. Et il y a des images, il y a beaucoup d'images d'archives, en fait, filmées par Spielberg lui-même, qui filme John Williams en train d'enregistrer la musique de ses films. Et ça, c'est, on en voit un petit peu. On en voit un petit peu, mais c'est pas suffisant. Ben voilà, mais ça, Spielberg, il te montre ça, il te fait un commentaire même. Et puis, ils ont une discussion. Ça pourrait être un truc très simple. Alors, je suis ravi de revenir sur comment il découvre la musique de John Williams, comment il, de voir son quotidien, d'apprendre sa vie. Il y a plein de choses que je savais pas sur John Williams. Ouais. En fait, donc c'est très bien, je suis content, mais j'aurais pu le voir sur Wikipédia aussi. En revanche, les images de Spielberg et leur rencontre à eux, leur discussion à eux, comment est-ce qu'ils ils sont capables de travailler ensemble, d'avoir une relation aussi longue, aussi profonde, même, parce que c'est quand même énorme ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu produire en cinéma et musique ensemble. Et comme le dit Spielberg aussi, c'est-à-dire qu'en effet, ces films, c'est, ils sont très bien, ok, mais sans la musique de Williams avec, en fait, ça perd énormément. Quoi.
Ah oui, enfin... oui, oui, complètement. Après, de toute façon, moi je peux même pas être objectif aussi. Évidemment, je trouve que le documentaire, moi, je partage complètement, de toute façon, les limites que t'as pu mettre. C'est clair et net que c'est assez récurrent dans les documentaires de Laurent Bouzereau, qui sont plus des trucs que tu retrouves sur les DVD. Dès que ça sort de la case DVD pour arriver sur non pas au cinéma, mais sur une plateforme, bon, où tu considères un peu ça comme un film, tu dis, bon, c'est vraiment du document. Quoi, hein, vraiment du document comme ça. À la fin du film, par exemple, c'est vraiment le truc, ah oui, j'ai pas traité sa carrière d'artiste solo, tu dis, et ça, et j'ai pas traité si, t'as trois petits blocs de tout ce qu'il a pas pu intégrer dans son montage, tu dis, c'est quand même dommage, parce que vraiment,
ouais, il y avait vraiment... T'imagines, c'est un truc Disney+,
oui.
Derrière, en fait, quelqu'un qui
peut-être,
réclame
mais, je pense qu'après, lui, il est suffisamment en puissance, hein, c'est quelqu'un, enfin, Laurent Bouzereau, pour faire un truc, tu dis, c'est quand même un peu dommage de pas avoir été chercher aussi ce truc-là qui est très spécifique chez Williams aussi, de qui vient du jazz, qu'il est hyper expert aussi en dissonance dans toute la musique ultra contemporaine, et qu'il est surtout quand même réputé pour être le plus grand mélodiste, donc c'est-à-dire en termes de musique classique, voilà, c'est vraiment imparable, mais que quand tu écoutes bien les musiques, tu dis c'est d'une richesse folle, parce qu'en fait ça travaille sur beaucoup d'autres tons de tonalités musicales qui sont plus de l'ordre de la musique contemporaine, quoi. Et ça, c'est un peu dommage de pas être allé chercher vraiment dans les propos et tout ça, ce qui fait vraiment qu'il a réussi à intégrer tous les apports de la musique contemporaine dans une musique dite un peu classique, quoi.
Et puis pour terminer quand même, j'ai eu la même impression en voyant le film de Eastwood et en voyant le documentaire sur Williams, en me disant, et après lui, qui est-ce qui restera? C'est une discussion qu'on a pu avoir, je crois, avec Thierry Jousse, savoir que les thèmes, tout simplement les thèmes musicaux comme Williams, mais d'autres, hein, mais surtout Williams en effet, ont pu le faire pendant plusieurs décennies, aujourd'hui ont disparu, en fait. Ouais. Et il y a peu d'explications, en fait, à ça, pourquoi on a non seulement peu de musique orchestrale, il y en a encore, mais peu quand même.
Ceci dit que c'est l'artisan principal du retour de la musique orchestrale.
Voilà,
aussi,
c'est ça. Mais au-delà de la musique orchestrale, tout simplement des thèmes, ces mélodies fortes qui vont représenter un personnage. Pareil, c'est une façon de concevoir la musique de film. On peut comprendre que ça n'intéresse plus les gens, mais en voyant le documentaire, tu dis, ça intéresse les gens, puisque justement, ils vont aller réécouter toutes ces musiques-là qu'a fait Williams.
Mais ils vont aussi réécouter Hans Zimmer dans des stades qui sont bondés.
On parle pas de...
Non, mais voilà. C'est vrai que ça fait un peu vieux.
Voilà. Et en fait, tu dis, Williams, pareil, il a plus de 90 ans, et les musiques de film, il va peut-être, même s'il est accro, il en fera jusqu'à ce qu'il crève, clairement. Hein. Il fait partie de ces tarés comme Miyazaki qui s'arrêteront jamais de bosser, c'est en sûr. Fait. Quoi. Il peut pas, c'est sa raison de vivre un petit peu. Mais après lui, il y aura plus. En tout cas, mais comme Eastwood, c'est-à-dire que peut-être qu'on va retrouver d'ici quelques années des gens qui vont se réclamer justement de ces gens-là qui chercheront à faire revivre. Peut-être qu'ils attendent qu'ils meurent parce qu'ils n'osent pas, pendant qu'ils sont encore vivants, faire des choses. C'est peut-être,
mais je pense que oui,
c'est de me rassurer comme ça, moi.
Ouais, mais je pense que tu as un truc aussi de production, de coût de production et compagnie, de mode aussi, ça c'est sûr. C'est
mais
hyper
les thèmes,
important.
Que ce soit pas un orchestre, mais un thème, tu peux le faire avec une machine.
Ouais, mais il y a eu des partitions très bonne. Je sais que Michael Giacchino, un mec, un vrai mélodiste assez fou, il y a des super BO de sa part, quoi. Mais c'est vrai que ça égale pas, enfin bon, là pour moi, oui, il y a Williams et Morricone, ils sont génie, tout en haut de la pyramide, quoi. C'est assez fou, quoi. À tel point que moi, il y a des films que je peux sauver juste parce que ça. Même dans le documentaire, tu regardes des extraits de la comment on appelle ça, la postlogie là de Star Wars là avec J.J. Abrams.
C'est ça.
Tu dis putain le thème de Rey, tu dis bah oui, mais c'est mortel, quoi. Voilà, c'est juste mortel.
T'as pas envie de voir le film, mais j'ai envie de réécouter
même la prélogie. En fait, la prélogie, moi, je sais que c'est des BO que j'écoute à fond parce qu'en fait, Battle of Heroes ou Anakin versus Obi-Wan, c'est des morceaux qui sont épiques comme c'est pas
mais
permis.
Ce qui me concerne,
et quand tu regardes
Harry
les films
Potter,
après, tu dis putain, la vache, les images sont pas du tout à la hauteur de la musique. Si t'écoutes la musique comme ça, tu dis mais alors là, c'est mortel, quoi. Et Harry Potter, pareil, on en parlait. Harry Potter, le thème d'Harry Potter, moi je déteste Harry Potter. Le thème d'Harry Potter, c'est juste brillant.
C'est brillant. Et la façon qu'il raconte, hein, pour lui, ça a été un des thèmes les plus faciles à composer. Alors après, il a galéré pour les suites. Mais par contre, le thème principal d'Harry Potter, il a eu aucun souci. Et c'est vrai que c'est régulièrement. Voilà. Cette façon de sublimer justement un film, et c'est là où je voulais en revenir, c'est que Spielberg avait, c'est dommage qu'il n'ait pas plus la parole dans le documentaire, le dit très bien, voilà, j'avais besoin de sa musique pour sublimer, et il ne le dit pas comme ça, mais pour sublimer le film, et quand tu revois les films, que ce soit E.T., Indiana Jones ou d'autres, c'est vrai que tu, voilà, regardez mon film sur la musique, c'est bien bon, il manque un truc, et avec la musique, paf, d'un coup ça décolle.
Ouais, il y a quelque chose.
Il se passe un truc.
Ouais.
Ça, c'est assez aujourd'hui, génial, quel autre compositeur peut prétendre justement
Bah après, si tu peux faire ça,
Non, mais bien sûr, évidemment, n'importe quel film
si
sans musique,
musique,
mais je veux dire, là il s'agit d'aborder des choses, des images qui deviendront non seulement iconiques, mais qui sont bouleversantes. La musique toute seule est géniale, les images toutes seules aussi, mais il y a un lien qui se fait qui est profond. Alors, ils avaient une chance tous les deux, mais les musiques de Williams, malgré tout, et comme tu disais, Harry Potter par exemple. Je pense que il a joué aussi énormément à populariser. Ces films auraient pu être un gros fiasco, les films de Harry Potter, quand même. Columbus, à la mise en scène. Et c'est vrai que c'est un truc tout con. Mais j'ai réentendu du coup le thème de Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. C'est génial.
Ouais, c'est vrai.
La musique de Maman, j'ai raté l'avion est géniale.
Ouais,
c'est la musique de Noël parfaite.
C'est terrible. C'est terrible parce que le film, il n'est pas bon du tout.
Mais
quand
non,
tu le
mais
regardes,
la musique est géniale.
Il est très très mal réalisé. C'est un gâchis. Mais en fait, la musique, elle est géniale. La dernière fois que j'ai vu ça avec
ça
mon gamin, tu dis c'est incroyable. Le film, il n'est pas bon, mais la musique, elle est extraordinaire.
Et tu continues le film, tu dis c'est la musique qui est géniale. C'était super. Donc voilà, moi, voilà, c'est juste que je termine ce documentaire-là en toujours avec cette petite note amère de me dire voilà, Williams, il est. Et je vais pleurer, je pense.
En fait, il y aura la moitié de la planète
comme
qui va pleurer.
Ça
va pas être très dingue, mais je pense que ça va vraiment être un truc assez dingo quand il va mourir, parce que vraiment. Quand il y avoir des hommages et qu'on va juste enquiller ne serait-ce que 5 titres un peu emblématiques de Williams, mais les gens ils vont.
Je sais que t'aimes pas Hook, mais la musique, la BO de Hook.
La BO de Hook est mortelle.
C'est une de ses meilleures. C'est une de ses meilleures bandes originales en fait. Tu peux écouter toute la bande originale de Hook, c'est exceptionnel. Vraiment, il y a rien à jeter dans la bande originale parce que parfois il y a même des bandes originales que j'adore, genre Jurassic Park. Toute la BO est pas géniale à écouter. Hook, tu peux tout écouter. La bande originale est exceptionnelle. Enfin bref, il va mourir à un moment et on fait une émission sur les gens qui vont mourir, c'est vrai.
Ouais.
Mais Clint Eastwood, c'est pareil. Enfin, je vais être triste comme c'est. Voilà, je vais perdre quelqu'un qui m'est très très proche.
Très cher avec Eastwood, mais je pense qu'en fait, avec ce truc un peu viscéral que peut avoir la musique et cet effet de citation immédiate que ça peut avoir, et je pense que oui, quand Williams va mourir, ça va être. Terrible.
Bon, c'est génial de finir cette émission en évoquant tout ça, mais il est temps malgré tout de nous quitter. Vous pouvez retrouver ce documentaire sur John Williams, Music by John Williams, sur Disney+. Et puis, Juré numéro 2 de Clint Eastwood est au cinéma. Allez le voir au cinéma. Montrer que cette forme de cinéma, justement, est encore vivante.
Et je crois que celle-là, parce que ça marche très,
ça
très
marche
bien
en France. Donc voilà, continuez, allez-y. C'est super. Et en même temps,
montrez
si vous
au
avez
patron de Warner.
Cette émission, j'espère que vous l'avez vu. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment en podcast sur le site de Canal B. On se retrouve très bientôt. On va se quitter avec un dernier extrait, comme l'avait annoncé Antonin, de Clint Eastwood, de Mystic River, un film que j'ai pas envie de revoir non plus. C'était super, mais c'est vrai qu'en fait je me rends compte qu'il a vraiment fait des choses beaucoup trop dark depuis 20 ans. Bref, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission.
You're welcome.
On se retrouve très bientôt. Ciao.
Des bisous.
I killed Dave. I killed him and I threw him in a mystic. But I killed the wrong man. That's what I've done. And I can't undo it.
I want to feel your heart. Last night, when I put the girls to bed, I told them how big your heart was. I told them how much you loved Katie. Because you created her. And sometimes, your love for her was so big, it felt like your heart was going to explode for loving her. I told them their daddy loved them that much too. And he had four hearts. And they were all filled up and aching with a love that meant that we would never have to worry. And that their daddy would do whatever he had to for those he loved. And that is never wrong. That can never be wrong, no matter what their daddy had to do. And those girls.